Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Rio de la Plata, la musique et le monde, 29e chapitre, 1929, l'année du premier grand opéra argentin. Bienvenue à vous tous dans nos ports d'attache Buenos Aires en Argentine et Montevideo en Uruguay. Nous sommes à la toute fin des années 20 et la crise mondiale ne semble pas affecter le dynamisme incroyable que ressent le voyageur cette année-là dans le Rio de la Plata. L'économie semble résister pour l'instant et la vie culturelle et musicale est toujours florissante. L'Europe est très présente, notamment l'Espagne et la France, par le truchement d'artistes étrangers, notamment le pianiste espagnol José Iturbi, qui vient à peine de quitter Paris où il résidait, après un détour au conservatoire de Genève où il a enseigné, et qui arrive pour la première fois en avril dans le Rio de la Plata. Il vient de s'établir à New York suite au succès de ses concerts aux États-Unis, et il commence une tournée à travers l'Amérique latine. Après l'Argentine, il est en mai et en juin en Uruguay. Outre Chopin, Beethoven et tous les grands compositeurs, il a mis à son programme un Espagnol trop oublié, qui avait passé une grande partie de sa vie à Paris, où il est mort en 1909, l'Andalou Manuel Infante, dont Iturbi est un ardent défenseur. On connaît l'attachement du public uruguayen à la culture espagnole, alors quand Iturbi joue du 4 mai au 1er juin, le public ovationne en particulier les danses andalouses de Manuel Infante. Les Argentins Sergio Tiempo et Karin Lechner interprètent ici sa danse sur le thème populaire du Vito. Une danse andalouse très enjouée, dont les jeux de jambes rappelaient, disait-on, la danse de San Vito, c'est-à-dire pour nous, la danse de Saint-Guy. Le pianiste José Iturbi était valencien. C'est en 1910, un an après la mort de Manuel Infante, qu'il était parti étudier à Paris avec la claveciniste Wanda Landowska, qui avait créé la première école de musique ancienne dans la capitale française et qui vivait depuis 1927 dans sa maison de Saint-Leu-la-Forêt, au nord-ouest de la capitale. En 1929, dans les Amériques, les chemins de José Iturbi ont croisé ceux de son ancien professeur. En effet, Wanda Landowska lui succède en Argentine et en Uruguay du 13 au 26 juin. La presse salue un grand événement qu'il ne faut surtout pas rater, d'autant plus qu'elle joue des œuvres de musique ancienne qui pour beaucoup sont encore inconnues. Elle alterne le clavecin et le piano dans des œuvres de Bach, de Mozart, Pachelbel, d'Andrieux, Scarlatti et François Couperin que beaucoup d'auditeurs découvrent émerveillés. Les barricades mystérieuses de François Couperin, Wanda Landowska au clavecin. Le théâtre Colonne offre à Buenos Aires une saison à nouveau très italienne, mais aussi des créations, comme celle de L'amour sorcier de Manuel de Falla, que dirige le tout jeune Juan José Castro. Et puis c'est la première fois que la soprano brésilienne Bidu Sayão chante au Rio de la Plata. Elle a 27 ans, elle a fait ses débuts au théâtre municipal de Rio de Janeiro, 9 ans auparavant, dans le rôle de Rosine du Barbier de Séville de Rossini. Après ses études au Brésil et en Roumanie, elle a pris des cours en France avec le ténor Jean de Resque. Elle fait alors de vrais débuts en 1926 au théâtre Costanzi de Rome, puis à Rio où elle chante à nouveau Rosine, qu'elle reprend en mai et en juillet 1929 sur les scènes du théâtre Colonne de Buenos Aires et du théâtre Solis de Montevideo. Son rôle fétiche avec la Gilda de Rigoletto et Lucia di Lammermoor. C'est quelques mois après ces représentations qu'elle enregistre son premier disque, où elle interprète des airs brésiliens, dont deux mélodies de son oncle, le dramaturge Alberto Costa, notamment « O luar da minha terra »,« Au clair de lune de mon pays », qui rappelle les mots d'ignace romantique empreintes de cette mélancolie nostalgique qu'on appelle au Brésil a saudade. Thank you. Bidou Sayan, toute jeune, qui part chanter à la Scala de Milan et à Paris au Théâtre de l'Opéra, où elle est Juliette dans l'Opéra de Gounod, et à l'Opéra Comique, où elle incarne la Lacmé de Léo Delibes. Elle devient alors une des grandes divas d'opéra en Italie et en France, avant de faire ses plus grands triomphes au Metropolitan Opera de New York. En juin 1929, et là on change d'ambiance totalement, débarque à Buenos Aires un duo de pianistes venus de Paris qui enchante le public. Le duo du français Jean Vienner et du belge Clément Doucet, qui va rester en Argentine plusieurs semaines avant de partir en Uruguay donner deux récitals. Ils jouent leurs arrangements d'œuvres de Bach et un pot-pourri de musique de Gershwin et de Johann Strauss. Et quand ils improvisent à qui mieux, le public ne cache pas sa joie. C'est comme si le cabaret du Bœuf sur le Toit s'était déplacé de Paris au Rio de la Plata. C'était un cocktail Gershwin interprété par Jean Vienner et Clément Doucet. À Buenos Aires, Jean Vienner a retrouvé son amie, la soprano Jeanne Batory, l'égérie des amateurs de musique contemporaine, tant à Paris qu'à Buenos Aires, où elle vient régulièrement depuis 1926, à la fois comme interprète de récital et aussi comme professeur. Tous deux sont invités par la prestigieuse Société des Amis de l'Art à donner un récital le 13 juin, dans ces salons de la rue Florida, où la musique française est souvent à l'honneur. Et même les interprètes argentins excellent dans la mélodie française. Ces années-là, notre langue est communément parlée dans le Rio de la Plata. Les concerts rue Florida ont lieu en général à 18h et sont gratuits. Parmi les compositeurs, on peut citer Fauré, Duparc, Millau, Honegger, Debussy, Ravel et bien sûr Eric Satie, particulièrement prisé dans toute l'Amérique latine. Comme cette mélodie du Chapelier qui s'étonne que sa montre retarde de 3 jours et qu'il plonge donc dans le thé, comme dans Alice au pays des merveilles, et tout cela chanté sur un air de Mireille de Gounod.
Le chapelier. Le chapelier fait mal de constater que sa montre retarde de 3 jours. Dès qu'il est du soin de la graisse, c'est toujours avec du beurre de première qualité. Mais il a laissé tomber des miettes de pain dans les rouages.
Après Le Chapelier d'Éric Satie chanté par Jeanne Bathory, c'était Jean Vienner et Jean-Joël Barbier qui interprétaient du même compositeur un extrait des 3 morceaux en forme de poire. Jeanne Bathory était venue pour la première fois en Argentine en 1926, invitée par le musicologue Georges-Jean Aubry pour illustrer ses conférences sur la musique française. À partir de cette date, elle est retournée à Buenos Aires pratiquement chaque hiver austral jusqu'en 1939, puis après la Seconde Guerre mondiale. Elle a souvent chanté et a surtout donné des cours. En 1929, Jeanne Bathory a 47 ans. Sa carrière a vraiment démarré en 1904 quand elle a remplacé au pied levé la cantatrice qui devait interpréter Asie de Scheherazade de Ravel, qui était lui-même au piano. Il lui a alors demandé de créer ses histoires naturelles. Elle est devenue l'interprète favorite des compositeurs de son temps. Jeanne Bathory s'accompagne ici elle-même au piano. Jules Renard, Histoire naturelle, Le Grillon. C'est l'heure où l'a d'errer, l'insecte nègre revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine. Et puis on n'entend plus rien. Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en l'air et désignent la lune.
C'est l'heure où l'a d'errer, l'insecte nègre revient de promenade et répare avec soin. La porte, il ratisse ses trois allées de sable. Il fait du brin de scie qu'il écarte au seuil de sa retraite. Il lime la racine de cette grande herbe propre à l'arsenic. Il se repose, puis il remonte sa minuscule poudre. A-t-il fini? Est-elle cassée? Il se repose encore un peu. Il rentre chez lui et ferme sa porte. L'autre
vaisseau, il tourne sa clé dans la serrure délicate. Et il écoute, point d'alarme dehors. Mais il ne se trouve pas en sûreté. Et comme par une chaînette dont la peau est graisse, il descend jusqu'au fond de la terre. On n'entend plus rien dans la campagne muette. Les peupliers se dressent comme des doigts en l'air.
Pendant la Première Guerre mondiale, Jeanne Bathory remplace Jacques Copeau à la tête du théâtre du Vieux Colombier et ses spectacles musicaux attirent le tout Paris. Dans les années 20, elle donne des récitals dans la capitale française mais aussi dans toute l'Europe. En janvier 1952, l'écrivain argentin Julio Cortázar, qui vivait alors en France, la rencontre par hasard dans un restaurant de Montmartre, très heureux de pouvoir parler avec cette cantatrice qu'il admire. Elle lui raconte alors qu'elle a connu le chanteur Carlos Gardel sur le paquebot qui les emmenait tous les deux en Europe en 1927. Elle n'avait jamais oublié son élégance et surtout la beauté de sa voix. Et Cortázar ajoute dans ce texte qu'il écrit pour la revue argentine Sur le Sud, la grande Bathory, en me confiant ainsi son affection pour Carlos Gardel, m'avait offert là une des plus belles soirées de ma vie.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otro se queja llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Au début des années 30, le pianiste Sébastien Piana revient aux sources du tango en écrivant plusieurs milongas, comme cette célèbre milonga sentimentale que chantait ici Carlos Gardel. Le 22 octobre 1929, plusieurs jeunes compositeurs réunis notamment autour de Juan José Castro et de Juan Carlos Paz fondent à Buenos Aires le groupe de rénovation musicale. Il est surtout l'expression d'une solidarité entre compositeurs pour défendre la musique argentine dans toute sa diversité et pour mieux la diffuser. Rien de dogmatique donc, et en plus, leurs rencontres régulières se déroulent plutôt dans des cafés. De 1929 à 1938, les concerts du groupe ont lieu pratiquement tout le temps dans la salle de la Société des Amis de l'Art, rue Florida. Une association qui devient vite prestigieuse. Jeanne Báthory participe au premier concert, qui a lieu le 22 octobre 1929. Elle chante des mélodies de José María Castro, des leaders de Gilardo Gilardi, un compositeur de 30 ans, dont un premier opéra germanisant avait été créé en Italie en 1923 au théâtre Colonne, en levée de rideau, avant Salomé ou Electra de Richard Strauss. Un grand talent qui se fait connaître surtout par ses mélodies et une suite de danses argentines. Antonio Rugolo joue ici la danse du gâteau à la guitare, puis Jacqueline Olivieri et Tomás Ballicora interprètent une berceuse indienne qui est sa mélodie la plus connue.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
Thank you.
Deux œuvres de Gillo Gilardi. Un grand merci à Jacqueline Livieri et à Thomas Balicola de nous avoir confié leurs archives. Du 12 juillet au 31 août 1929, dans la saison du Théâtre Colonne, où le grand répertoire italien et germanique domine, est créé un ouvrage totalement hors norme, qui allait devenir l'opéra argentin le plus populaire. Et il sera représenté régulièrement jusqu'à nos jours, comme si tout un peuple s'y reconnaissait, avec son histoire, ses chants, ses mythes et ses légendes. Le titre, El Matrero, que l'on pourrait traduire par le hors-la-loi, un opéra de Felipe Boero, qui à 45 ans était au sommet de sa carrière. Le mythe du gaucho hors-la-loi, généreux, amoureux, redresseur de tort, vient surtout de la figure historique de Juan Moreira, très aimé du peuple des Pampas. Assassiné par la police en 1874, il est devenu le symbole de la maltraitance dont ont souffert les gauchos au long de leur histoire de la part des propriétaires terriens ou des autorités politiques. Un roman biographique édité 5 ans après est porté 3 fois à l'écran avec le même succès. Edmundo Rivero, payador et tanguero argentin qui a aujourd'hui 75 ans, a composé une milonga en son honneur, en rappelant la date fatidique de son exécution par un sergent en 1874 et 1874 dans un lupanar de la bourgade de Lobos.
En un lupanar de Lobos, flauta, guitarra y violín. A Moreira lo tumbaron, aunque supo resistir. 1874, en la estrella aquel burdel, un 30 de abril nefasto. La partida fue por él, un tal sargento chirino, a sus espaldas logró cometer el desatino de ajusticiar a un varón. Cuando la muerte chairaba en el brocal escondida, adentro un tango alumbró. Fue que el gaucho partió mientras el tango llegaba y contaba lo que vio. Será que el gaucho murió dejando a Laura llorando, pero el tango lo ve.
Comme le dit la chanson, Juan Moreira est toujours vivant, car en plus, la milonga et le tango l'ont vengé. C'est ce Juan Moreira qu'on retrouve réincarné dans le gaucho matrero, le cow-boy hors-la-loi, de l'opéra de Felipe Boero. L'action se déroule dans une estancia de la Pampa au nord-est de Buenos Aires. C'est le crépuscule. Don Liborio, le propriétaire, a organisé une fête avec les peones, les travailleurs agricoles. On commente avec inquiétude la présence d'un gaucho fugitif dans la région. La seule qui ne le craint pas, c'est la fille de Liborio, la belle gaucha Pontezuela. Elle a cru l'apercevoir alors qu'elle galopait dans la plaine et il l'a fascinée. Pendant la fête, on entend soudain un chant qui vient de loin et qui s'approche, une sérénade qui célèbre l'amour du cavalier pour Pontezuela.
Mi viguera sabe que viene a llorar. ponte suelo por rasgar. Sabe que va en
Le ténor italien Tito Skipa avait beaucoup aimé l'opéra de Felipe Boero quand il l'avait vu au théâtre Colonne et il a mis à son répertoire l'air de Pedro Cruz au tout début de l'opéra. Ce Pedro Cruz est un gaucho poète et chanteur, fou amoureux de Pontezuela. On lui ouvre les portes de l'estancia et il est reçu par Don Liborio avec l'hospitalité coutumière des habitants des Pampas. Mais Pontezuela rejette sa déclaration d'amour. La Radio Nationale Argentine nous a transmis les enregistrements réalisés lors de la création, comme ici l'air de Pontezuela et le trio avec son père et Pedro, enregistré au théâtre Colonne en 1929 et remasterisé.
Thank you.
Pedro Mirasu tenor, Nena Juarez soprano, Apollo Granforte bariton, Hector Panizza à la tête de l'orchestre du Théâtre Colonne, enregistré lors de la création de cet opéra de Felipe Boero en 1929. Soudain, coup de théâtre. L'un des peones croit avoir reconnu dans le cheval de Pedro celui du matrero, du hors-la-loi. Tous entourent alors le jeune homme, le poignard en main. Mais Don Liborio défend son invité. Le lendemain, dans l'après-midi, Pedro met sur le compte de la peur le fait qu'on le prenne pour le matrero et il promet à Liborio d'abandonner sa vie de poète vagabond pour se mettre à son service dans l'estancia. Le régisseur qui l'entend le provoque de son poignard. Il est lui aussi amoureux de Pontezuela. Ils se battent et Pedro sort vainqueur sans blesser son adversaire. Au dehors, les peones, accompagnés par des guitares, et ça c'est une première au Théâtre Colonne, chantent autour des braseros. Pedro les rejoint, le soleil descend sur la pampa. Cette scène de l'opéra a été enregistrée cette fois par la Radio Nationale d'Argentine lors de la reprise au Théâtre Cervantes de Buenos Aires en 2012. Fernando Álvarez dirigeait le chœur et l'orchestre national argentin. Dans l'estancia, Don Liborio a toute confiance en Pedro Cruz et il accède à sa demande. Il lui donne volontiers la main de sa fille. Pontezuela entre en scène, elle a tout entendu, très rebelle, elle refuse aussitôt et avoue à Pedro qu'elle aime un autre homme, el matrero, le hors-la-loi. Elle est convaincue qu'il est à l'image des héros qu'elle admire, un homme libre et courageux. Nous sommes cette fois au Théâtre Colonne en 1929 avec ce trio, interprété par Pedro, Pontezuela et son père Liborio, qui fait toujours confiance dans son gaucho poète.
Oh.
Face à la pression des peones désireux de neutraliser le hors-la-loi, Liborio déclenche une véritable chasse à l'homme. Pontezuela est désespéré, mais Pedro Cruz lui promet de lui ramener ce fiancé dont elle rêve. Un immense incendie illumine la pampa. Les peones ont mis le feu aux champs de chaume, persuadés que le fugitif s'y cache. Peu après, Pedro Cruz revient. Il a pu franchir le mur de l'estancia, mais il est gravement blessé. Pontezuela accourt, il baigne dans son sang et s'écroule en agonisant. « Je suis ton fiancé, Pontezuela, le matrero, c'est moi. » Il meurt à ses pieds. Pontezuela, effondré, le prend dans ses bras, lui dit son amour. La nuit est tombée et l'opéra s'achève sur le lamento de Pontezuela, seul face à tous.
Thank you.
La scène finale du Matrero, l'opéra de Felipe Boero, enregistré ici sur le vif au Théâtre National Cervantes de Buenos Aires en avril 2012. La soprano Marina Brengi et l'Orchestre National de Musique Argentine placé sous la direction de Fernando Álvarez. Merci beaucoup à la Radio Nationale d'Argentine. Plusieurs Matreros sur la loi sont devenus des héros légendaires, comme Juan Moreira en Argentine ou Martín Aquino en Uruguay. L'écrivain Jorge Luis Borges a évoqué l'assassinat de Juan Moreira dans son récit « La noche de los dones », « La nuit des dons ». C'est un travailleur agricole de 13 ans qui raconte. Il a été le témoin du drame alors qu'il était venu s'amuser avec un autre péon de l'Estancia dans le lupanar du village de Lobos. C'était une nuit de pleine lune. Un sergent de police, la baïonnette au canon, surveillait le mur de clôture. Soudain, l'ombre d'un homme est apparue. Juan Moreira. Le sergent s'est précipité. Il l'a transpercé de sa lame avant de l'achever de sa baïonnette. C'est ainsi que ça s'est passé, dans le grand fleuve de la nuit. En l'espace de quelques heures, j'avais connu là-bas l'amour et j'avais vu la mort en face. Le temps d'une nuit, ces deux choses essentielles m'avaient été révélées.
Allá va, dice la historia. Su coraje es un decoro, viento montado en el mono. Sin frontera divisoria, sangre de una antigua gloria. Gloria de silencio y ti, pecho como de felino, mirada bien decidida, salvaje instinto de vida, resume Martín Aquino. Transformado en fiera, en rostro de rebeldía, no supo la policía, sino por traición quién era. Hubo una lengua rastrera que le enredó su destino, hubo un infeliz ladino, hombre sin H vendida, que señaló la escondida. Sombra de Martín Aquino.
La vida lo moldeó audaz con un sino permanente que arrastraba en el torrente del andar siempre fugaz. Si conoció algo de paz, seguro fue por sentido del amor, del ser querido, la calma de una caricia y aquí y allá la justicia que lo empuja perseguido.
Pero vuelve por la senda de cualquier fogón prendido, en real de prosa al descuido, la imagen hacia el que atienda. En el mono es la leyenda, dueña de cualquier camino, y quien ponga oído fino, detrás suyo en la reunión, hasta la respiración, siente de Martín Aquino. En el cuento una emoción natural, limpiando en el pajonal todo el gavilán sangriento. Vuelve trágico y atento al refugio de un vecino, pero si algún remolino a encerrarlo se le apronta, en ríe del mor lo monta y es libre Martín Aquino. Y es libre Martín Aquino, y es libre Martín Aquino.
C'est avec ce chant au gaucho hors la loi, Martin Aquino, interprété par le jeune duo uruguayen Copla Alta, qu'on se quitte aujourd'hui. Et on se retrouve bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet et Claire Levasseur, qu'on peut écouter et réécouter en podcast.